Tous les dimanches à 17h, CFM vous permettra de participer à une nouvelle émission, Les Sabots d'Hélène. Faites-nous part de vos expériences en matière de rêves prémonitoires, de médiumnité, de télépathie, d'intuition, et ceci en tout anonymat. Hélène, voyante, sera présente pour répondre à vos questionnements sur tous ces sujets. Pour nous joindre ou enregistrer votre témoignage, par téléphone 05 63 67 03 57, par courrier CFM boîte postale 16 82 160 Caylus, ou par mail les sabots d'Hélène, CFM, tout attaché, @gmail.com. Et à dimanche.
Bonjour Hélène.
Bonjour Johan.
Comment vous m'aviez traité jusque-là? D'étanche, oui. Oui, d'étanche. Et aujourd'hui, étanche. Vous me dites qu'on va parler le langage des plantes.
Voilà. Là, déjà, le sourire commence à vous gagner avant même que j'ai commencé. C'est merveilleux. Je sens que ça va. Vous allez très bien le vivre.
Oui.
Voilà. Alors, donc, on a recueilli un témoignage d'une auditrice qui est le suivant. Alors, quand j'avais 7 ans, ma mère récupéra un jeune pousse de marronnier. Elle en fit un bonsaï, en coupant méticuleusement les racines superflues et les branches. Il fut mis dans un pot en ciment, dans lequel il resta 44 ans durant. Il fut déménagé de Paris en Normandie, de Normandie au Gers, et toujours sur une fenêtre ou un balcon. Il changea donc de climat, sans subir aucun dommage. Lors d'une tempête, il tomba même du premier étage. Replanté et rempoté, il continua à sortir ses bourgeons au printemps, et ses feuilles en été, suivant scrupuleusement le rythme des saisons. Lorsque ma mère décéda, je récupérais le bonsaï du marronnier. N'habitant qu'à quelques kilomètres de ma mère, donc pas de changement climatique, et lui donnant les mêmes soins que j'avais vu ma mère le faire pendant des années, je ne compris pas pourquoi il se mit dans les jours qui suivirent son décès à perdre ses feuilles, puis finalement à mourir pour n'être qu'une carcasse de bois sec.
C'était l'automne peut-être.
Non, à partir du moment où il devient complètement sec, et ça se passe en été, c'est plus l'automne. Enfin, c'est pas encore.
C'est parce que la maman qui est décédée avait la main verte que la fille n'avait pas, non?
Ok. Alors, donc, on va continuer, Johan, pour votre information personnelle, dont je suis sûr vous êtes totalement friand. Alors, il y a nombre d'histoires comme celle-ci qui se passent de bouche à oreille. Vous avez dû en entendre, du reste, Johan. La personne qui vit avec des plantes tombe en dépression, les plantes se mettent à perdre leurs feuilles, à s'étioler. Ou encore une personne vivant avec une plante dans son salon, qui s'occupe de cette plante régulièrement, atteinte d'un cancer, voit sa plante qui a ses feuilles qui se recroquevillent sur elle-même. Et lorsque la personne est enfin soignée et enfin guérie, les plantes s'épanouissent à nouveau. Vous avez déjà entendu
genre de choses. Ça arrive tous les jours, ça.
Vous avez déjà entendu ce genre de choses?
Oui, ça arrive tous les jours.
Non, mais sans parler de tous les jours. Allez, soyez
jamais
un peu franc.
C'est la première fois que j'entends parler de ça, moi.
D'accord.
Vous l'inventez, ça, c'est pas possible.
Mais vous côtoyez des gens dans la rue?
Ah ben non, très peu. Et puis, comme je supporte pas les plantes à l'intérieur, tous les gens que je côtoie...
Vous leur faites sortir leurs plantes quand vous arrivez chez eux?
Qui ont des plantes chez eux, je me méfie. Et je n'écoute même pas quand ils me parlent, alors...
D'accord. Du reste, on entend souvent dire par les gens qui aiment à soigner leurs plantes qu'ils leur parlent. Vous avez entendu ça?
Oui.
Ah ça y est, ils commencent à mourir. Les Indiens considéraient que les arbres se parlaient entre eux et que les plantes, en plus de leur pouvoir médicinal, devaient être respectées comme des êtres à part entière. Ça, vous connaissez.
Okay. Oui, ça, je l'ai entendu dire. On entend dire de ces trucs des fois.
Voilà, c'est cela. Donc, plus proche de l'aspect scientifique, maintenant on va aborder l'aspect scientifique, hein, Johan. Il existe des études qui ont été effectuées sur ce sujet. Et oui, oh, stupeur. Alors, par exemple, on a Cliff Baxter, en 66, qui révèle que les cellules vivantes, même végétales, se montrent sensibles et réagissent aux événements environnants. Alors, Cliff Baxter était un expert mondial en matière de détecteurs de mensonges, ainsi que l'inventeur du Baxter Zone Comparison Test, système répandu chez les enquêteurs qui utilisent les détecteurs de mensonges. Ça, les détecteurs de mensonges, vous avez entendu parler. Donc Baxter avait menacé l'équilibre d'un sujet pour provoquer une réaction électronique. L'électronique avait enregistré la réponse sur le sujet, et le sujet était une plante. Je vous vois arrondir les yeux. Aristote déjà pensait que les plantes avaient une âme, hein, Johan. Quand Baxter, d'expérience en expérience, il devient convaincu que les plantes perçoivent les sentiments humains. Une des expériences consistait à prendre 6 sujets, donc 6 personnes, leur bander les yeux. Il devait tirer un papier au hasard. Sur l'un des papiers était rédigé l'ordre d'arracher et de détruire l'une des 2 plantes qui se trouvaient dans la pièce à côté. Donc le crime, si on peut appeler ça comme ça, était ensuite exécuté sans que ni les sujets, ni les 5 autres personnes, donc, ni Baxter ne sachent qui était le coupable. Le seul témoin, c'était donc la 2e plante qui restait dans la pièce. Vous me suivez jusque-là?
Il y a 2 plantes, il y en a une qui est arrachée par quelqu'un.
Voilà, et l'autre qui est témoin du meurtre. Voilà. On fixait ensuite les électrodes sur la plante témoin, donc la plante qui est restée, et on faisait défiler les 6 sujets, les 6 personnes, chacune à leur tour.
Hein, derrière une glace sans terre?
Non, même pas. On observait alors que lorsque le coupable approchait l'aiguille du galvanomètre, s'affolait. La plante reconnaissait celui qui avait tué l'un des siens.
Et elle l'avait dénoncé, en plus, à coup d'aiguille.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait...
Mais ne dites pas qu'ils ont recommencé l'expérience 14 000 fois au point de faire des statistiques.
Et si? Ah, horreur. Donc voilà, une autre expérience qui éliminait tout facteur humain. Et elle consistait à placer des crevettes vivantes dans un plateau. Celle-ci basculait sans intervention humaine, c'est-à-dire que c'était un mécanisme qui faisait basculer le plateau des crevettes, et les dites crevettes se retrouvaient plongées dans une casserole d'eau bouillante, où forcément, elles mouraient. Dans une pièce voisine, fermée, évidemment, une plante était branchée sur un galvanomètre, émettait au moment de la mort des crevettes un tracé soudainement turbulent. Or, ce tracé était différent de celui qui était enregistré par une émotion. Et Baxter se demanda s'il ne correspondait pas à une sorte de perception par un groupe de cellules de la mort d'un autre groupe de cellules, en fait. Il a réitéré l'expérience sur de la salive, des spermatozoïdes. Au moment de la mort, il a enregistré exactement le même type de graphisme.
Voilà un mec qui avait des occupations saines.
Ok. Donc, il semblerait même que lorsqu'une empathie, c'est-à-dire la faculté de comprendre autrui, n'est-ce pas, Johan, et de percevoir ce qu'une personne ressent, lorsque cette empathie donc est établie entre une plante et son maître, son propriétaire, ni la distance, ni les obstacles n'interrompent le rapport. C'est-à-dire que des expériences qui ont été pratiquées avec une plante soignée régulièrement par une personne, cette personne s'en va... vit quelque chose, et si on enregistre, continue à enregistrer les données de la plante, on a une corrélation avec ce qu'a vécu le propriétaire de la plante.
Vous voulez dire que quand les gens partent en vacances, les plantes peuvent avoir un sentiment d'abandon alors que c'est juste qu'elles ne sont pas arrosées?
Non, pas d'abandon, mais si par exemple la personne... il y avait eu une expérience qui a été faite comme ça par un biologiste, et donc il part en week-end, il laisse sa plante, la plante est branchée, donc ça continue à enregistrer les données, et il revient et il se rend compte qu'il y a une poussée d'émotion, entre guillemets, de la plante, enfin un graphisme, un changement dans le graphisme, tout du moins, au moment où il faisait l'amour avec son ami. Voilà, c'est par exemple. Ah oui, il y a des plantes qui sont voyeuristes, oui, c'est ça. Non, dans 2 secondes, je sens que ça va arriver. Ok. Ça va?
Non, ça va. Alors, là, on répond à la... Je ne sais plus si c'est une auditrice ou un auditeur, dont la maman était décédée, et le marronnier n'a pas tenu le coup, quoi.
Voilà, et c'est fréquent, hein. C'est très fréquent. J'ai souvent entendu ce genre de choses. Des plantes qui vivaient avec une personne, enfin qui étaient dans l'environnement d'une personne, que cette personne soignait régulièrement, et au moment du décès de la personne, la plante, elle perd ses feuilles, elle meurt ou elle est en très très mauvais état.
Donc vous qui avez hérité des plantes de votre papa ou de votre maman, ou de votre frangin ou de quelqu'un, ne culpabilisez pas, vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas que vous l'avez mal entretenue, c'est la plante qui a décidé de se laisser mourir, quoi.
C'est ça en gros.
Ah voilà. Bon, alors, À quoi bon se casser la tête, hein, lui mettre de l'engrais, des trucs comme ça, le changer de disposition,
ouais, enfin, faut pas non plus
la
chercher,
rempoter.
Faut pas non plus chercher à la faire mourir, quoi, je veux dire. C'est pas non plus le but de l'opération, généralement.
Mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les plantes auraient un langage et que nous sommes ignorants à l'interpréter.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'elles auraient une sensibilité, tout du moins, une sensibilité, une réaction, qui peut être une réaction cellulaire, mais une réaction aux événements environnants et aux personnes qui sont proches. Ça avait été prouvé aussi dans des scènes de violence commises devant une plante, on se rend compte que la plante a en effet une réaction.
There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Lady killer, regulation tattoo. Silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road. And a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. On every street, yeah.
On est toujours dans les sabots d'Hélène, on est avec Hélène et on parle des plantes aujourd'hui. Donc vous êtes en train de me dire que si on arrive à faire des progrès, par exemple, à faire parler les plantes, de tout ce dont elles ont été témoins, il y a des tas de crimes qui seraient résolus. Il n'y a pas besoin d'une caméra, il suffirait qu'il y ait une plante sur une scène de crime.
En même temps, amener une plante comme témoin dans un tribunal, je pense que ça risque d'être assez comique.
Ben ouais, mais...
Elle va avoir du mal à communiquer avec...
On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Si ça se trouve, on sera capable de décoder ce qu'a vu une plante.
On pourra peut-être arriver au moins à dire ben, le suspect, c'est lui, puisque la plante a été témoin d'eux. Je vois mal le système, mais bon.
J'ai pris 20 ans parce qu'il y a une plante qui m'a dénoncé, c'est ça, à la fin.
Oui, je pense que là, on n'y est pas encore.
Pardon.
Je vous ai interrompu dans votre raisonnement.
Non, mais non, Johan, je sais que vous délectez de ce genre de choses. Donc, il semblerait même que lorsque donc, le maître et le propriétaire de la plante sont en communication, donc les plantes perçoivent de nombreuses informations auxquelles elles adaptent leur croissance.
Il y a plein de gens qui disent que leurs plantes aiment la musique.
Voilà, par exemple. Alors, on découvre qu'elles communiquent et qu'elles sont sensibles à la gravité de certains événements, au son, aux déformations mécaniques. Par exemple, une expérience qui a été pratiquée avec deux groupes de plantes, justement, on va en venir à la sensibilité des plantes à la musique. Donc, deux groupes de plantes de même espèce, placées dans deux pièces différentes, chaque pièce étant équipée d'un haut-parleur. Dans une pièce...
D'un côté Mozart, de l'autre David Guetta. Qui meurt la première?
C'est un peu ça. Donc, dans une... Première pièce, les plantes, on leur diffuse de la musique classique. Et dans l'autre pièce, un rock assez violent. Et donc, les plantes de la pièce où la musique est de la musique classique vont pousser et grandir, inclinées vers la science de musique. Par contre, on se rend compte que les plantes qui ont été placées dans l'autre pièce et qui reçoivent une musique plus violente, plus moins harmonieuse, on va dire, en tout cas pour les plantes, hein, après on a le droit d'aimer le rock, ça n'a rien à voir. Donc elles poussent et grandissent, mais alors vraiment du sens opposé à la source de musique. Elles partent vraiment dans l'autre sens finalement.
Moi, j'en déduis que la musique classique, ça endort, et que l'esprit rock, ça fait aller de l'avant.
Oui, elles, ça les fait plutôt fuir, puisque leur poussée et leur tête, si on peut dire,
part
dans le sens opposé, quoi. Genre, je veux sortir, pitié, arrêtez ça, voilà, ça doit être...
Ça, c'est une interprétation.
C'est une interprétation, j'en conviens.
Ça peut être le contraire. Le rock, ça donne envie de bouger...
De sortir, oui, c'est ça. Elles envahissent les murs, elles grimpent et elles essaient de passer sous la porte. Mais pourquoi pas? Particulièrement depuis les années 2000, les biologistes se sont rendus compte que toutes les plantes perçoivent leur environnement. Au sens où l'on entend donc pour les animaux, par exemple. On est très longtemps parti du principe que les animaux n'avaient pas de sensibilité, ne sentaient rien. Bon, ceci dit, même pour l'église, les femmes n'avaient pas d'âme et n'avaient pas le droit de rentrer dans les églises pendant longtemps. Hein. Donc, voilà, pas d'innovation. Maintenant, ça va être autour des plantes.
Maintenant, il n'y a plus que des femmes dans les églises, pratiquement. Pardon.
Vous parlez pour vous, là, Joanne. Mécréant. Donc, il est évident qu'il y a encore des tas de progrès à faire dans ce domaine-là. Que entre les oui-dire populaires, les passages de connaissances populaires, où en effet, on entend très souvent, bon, mis à part vous, Johan, qui devait être étanche à ce genre de discours, donc vous devez avoir les oreilles qui se bouchent.
Oui, je pense. Je vois pas pourquoi certaines plantes nous en voudraient alors qu'elles ne nous connaissent pas. Par exemple, on dit toujours que le tabac tue, je lui ai rien fait, hein.
Oui, là, c'est des bouts de feuilles que vous fumez, mais bon, elles ont été un peu séchées, elles sont un peu mortes, voilà. Donc, vous pouvez même mettre une petite croix sur votre boîte de tabac, ce sera pour les feuilles et pas pour vous, pour une fois. Le tabac tué, on n'a pas précisé que c'était les feuilles de tabac qu'on tuait, en fait. C'était ça, l'astuce. Donc, on peut continuer à fumer. Non. Chouette. Donc, oui, les oui-dire, les gens qui parlent aux plantes, qui leur disent, tiens, moi, je mets de la musique, je parle aux plantes, je les arrose, je les chouchoute.
Ça relève pas de la psychiatrie.
Souvent, des gens qui ont des plantes vertes, souvent des gens, même en extérieur, des gens qui cultivent des rosiers, des plantes, etc., et qui mettent une énergie, un émotionnel, qui mettent du cœur dans le langage populaire. Et il y aurait une interaction donc entre ces personnes qui s'occupent des plantes et l'émotionnel de la personne et la plante elle-même.
Voilà. Heureusement que les plantes ne bougent pas. Imaginez que
il y a des plantes qui bougent.
Que des roses couvertes d'épines viennent à votre rencontre comme un troupeau de vaches quand vous allez leur apporter à manger.
J'ai une
ça griffe.
J'ai une plante extraordinaire chez moi. J'ai une rose de Jéricho. La rose de Jéricho, vous connaissez, Joanne ? Non, pas du tout. Donc la rose de Jéricho est une plante, en fait, qui ressemble à une rose, mais en vert, un peu comme des feuilles de sapin, donc qui fait à peu près de périphérie, une fois ouverte, une vingtaine de centimètres, et qui vit dans le désert. Et cette plante a une particularité extraordinaire, c'est qu'elle peut vivre, mourir des centaines de fois. En fait, quand elle est sèche et qu'elle est déracinée par le vent, elle se propulse, elle se referme sur elle-même, elle se sèche et ça devient une boule qui part au vent et qui, une fois qu'elle retrouve un point d'eau, se réouvre et redevient une rose de Jéricho.
En forme de trompette.
Voilà, les gens l'utilisaient beaucoup pour Noël. Et il y avait une légende, enfin une coutume qui s'accompagnait de ça, comme quoi plus la rose de Jéricho s'ouvrait bien, plus elle était verte, plus ça portait bonheur à la famille. Voilà, il la remettait dans un petit carton, il la laissait sécher toute l'année, et au moment de Noël, il la rouvrait. Il la remettait dans l'eau.
On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais vous allez nous faire un de ces jours toute une émission sur la symbolique des plantes. Parce que c'est bien joli de dire qu'il y a des scientifiques qui ont analysé des réactions à certains événements dans l'environnement des plantes, mais il y a aussi comment les hommes ont cru, ou croient encore, que certaines plantes signifient quelque chose, indépendamment de la molécule qu'il y a dedans et qui...
Indépendamment l'aspect pharmaceutique de la plante.
Oui, l'aspect pharmaceutique, d'ailleurs, ne vous en privez pas non plus. Hein.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, je n'ai pas fait troisième langue pharmacie. Et je vous rappelle qu'on est dans une émission de parapsychologie.
Ah, c'est pour ça que je ne comprenais rien.
Voilà. Donc on parle toujours de sensibilité, de communication, de choses qu'on ne palpe pas, de choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là, qui nous entourent ou qu'on peut ressentir.
Bon, donc, si vous oubliez d'arroser une plante, méfiez-vous, ça se trouve, elle vous en veut.
Joanne, je pense que votre cas est totalement... je ne dirai pas quoi.
Bon, pour nos auditeurs, on peut recevoir encore des témoignages à propos
absolument,
de plantes, c'est pas un problème,
absolument.
On refera une émission là-dessus.
À propos de sensibilité en général, d'événements, de choses étranges qui ont pu se passer autour d'eux, ou qu'ils ont vécu, que ce soit... de l'intuition développée, des rêves prémonitoires, des expériences de médiumnité ou autres, et même des expériences comme celle-là où finalement, bah derrière, on se rend compte qu'il y a un sujet qui est quand même important et qui mérite d'être développé.
Merci Hélène, à la semaine prochaine.
Ok, à la semaine prochaine Joanne, au revoir. Tous les dimanches à 17h, CFM vous permettra de participer à une nouvelle émission, Les Sabots d'Hélène. Faites-nous part de vos expériences en matière de rêves prémonitoires, de médiumnité, de télépathie, d'intuition, et ceci en tout anonymat. Hélène, voyante, sera présente pour répondre à vos questionnements sur tous ces sujets. Pour nous joindre ou enregistrer votre témoignage, par téléphone 05 63 67 03 57, par courrier CFM boîte postale 16 82 160 Caylus, ou par mail les sabots d'Hélène CFM tout attaché @gmail.com. Et à dimanche.